Genèse 29, verset 35, il est écrit, puis, non, pardon, c'est pas ça, c'est pas le bon verset, chapitre 38, verset 1er, il est écrit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Pourquoi Judas s'éloigna-t-il de ses frères? Il n'est pas question de la tribu de Judas, là, mais du fils Judas, qui était donc le fils de Jacob et de Léa. Il faisait partie de la quatrième, du numéro 4 sur les 12 garçons. Et ce garçon, eh bien, va faire partie certainement de ceux qui ont parlé de leur frère, de leur petit frère Joseph, en disant « voici le faiseur de songes ». Mais Judas va s'opposer à ce que on vienne tuer son frère, Joseph. Vous vous rappelez que les quelques-uns ont voulu tuer Joseph et Judas lui a fait partie de ces gens qui se sont opposés à cela. Il dira, Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne partons pas, ne portons pas la main sur lui. » Car c'est notre frère, il est du même sang que nous. Et pourquoi ce garçon a-t-il fui? Eh bien parce qu'il n'a pas pu s'opposer à ses frères, si ce n'est que essayer d'opposer le fait qu'on vienne le tuer, son frère Joseph. Mais c'était trop lourd pour lui à porter le mensonge. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un peu l'idée d'un garçon qui connaît la vérité. Il sait que son frère n'est pas mort. Il va être là témoin du vêtement de son frère qui va être imprégné du sang d'une bête. Et on va venir voir le papa, Jacob, en disant « Papa, reconnais le vêtement de ton fils. » Vous vous rappelez que c'était un vêtement multicolore qui désignait eh bien, le fils aîné. Et même s'il n'était pas l'aîné, enfin on ne va pas revenir dessus parce que ça serait trop long à expliquer. Je l'avais déjà raconté, mais peut-être qu'on reviendra dessus un jour. Et Judas, lui, savait... En voyant la tête de son père, il n'y a pas pire que de perdre un enfant. Vous savez que quand on perd son épouse ou son époux, on devient veuf ou veuve. Quand on perd ses parents, on devient orphelin de père ou de mère. Et quand on perd un enfant, il n'y a pas de mot dans notre vocabulaire pour dire combien il est la perte d'un enfant et combien c'est douloureux. C'est une immense souffrance. Et ici, Judas, voyant son père se décomposer en apprenant la nouvelle, imaginez. Et lui, il voyait son père dans une profonde souffrance, ne sachant pas ce qu'il allait devenir, son père. Mourir de chagrin, peut-être. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, eh bien, son père eh bien, se laissait aller petit à petit dans ce deuil, traversant ce deuil. Et chaque année, imaginez le fils, Judas, en train de voir son père... Vous savez qu'il y a des gens qui fêtent, au début que nous sommes arrivés ici, nous avons notre voisine, ne répétez pas, on a vu des voitures arriver un jour, dit, ah là là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un départ, c'est pas possible, parce que du jour au lendemain, il y a plein de voitures qui sont arrivées. Eh bien non, enfin oui non. Le mari de la dame est décédé, mais il y a quelques années. Alors chaque année, c'est récurrent, chaque année, c'est comme si il fêtait la date anniversaire du décès. C'est étrange, hein? Bon, on n'a pas été conviés, puis ça ne m'intéresserait pas. Ou quoique pour parler de l'Évangile, là, ça serait un bon moment. Bon, enfin, peu importe. Et ce garçon, Judas, voyant son père chaque année, pour les fêtes, voir son père qui était là, et ne sachant pas ce que son frère était devenu, et faire croire qu'il était mort. Quelle tristesse! Et ce garçon, eh bien, il va s'échapper, il va fuir la famille. Et il va se réfugier auprès, se retira vers un homme, ce chapitre, je l'ai pas noté, j'ai juste marqué chapitre 38, verset 1, c'est pas grave, se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Ira signifie, eh bien, noblesse. Et parfois dans nos fuites, nous pouvons avoir toujours des exemples qui soient nobles, enfin, tout à notre honneur. On peut toujours se trouver des excuses pour essayer de fuir telle et telle situation. En disant, oui, c'est pas mal, c'est mieux de faire comme ci que d'avoir fait autrement. Bon, on peut toujours trouver des excuses, nourrir nos excuses. Mais en plus, cet homme ira habiter donc à Adulam. Adulam signifie refuge, lieu de repos. Quelle tristesse pour Judas, qui connaissait Dieu, d'aller se réfugier parmi un homme du monde. Quelle tristesse de rechercher la sérénité, la paix, de fuir auprès du monde. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. » Combien d'hommes et de femmes se sont brûlés les ailes à chercher ici et là eh bien, la paix que Dieu seul peut donner. Et se sont brûlés les ailes. Se sont fait du mal. Mais nous allons voir que tout à l'heure, eh bien, Judas a changé. Jérémie 17, verset 1, il est écrit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Judas va avoir trois fils. Le premier de ses fils s'appelle Er. Er signifie « qui veille ». Mais signifie aussi « veillant ». Si vous ne dormez pas bien la nuit, vous veillez, mais ce n'est pas dans la bonne pensée. Hein. C'est veiller sur sa vie. Veiller sur son avenir pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a pu commettre jadis. Veiller. Et ce garçon portait ce nom-là, mais il portait un nom, mais sa vie ne correspondait absolument pas à ce qu'il vivait. Puisqu'il est écrit que Er, premier né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel, vous êtes assis, le fit mourir. Tragique. Puis Judas va avoir un deuxième fils. Il va s'appeler Onan. Onan signifie vigoureux, signifie aussi lassitude, mais signifie aussi iniquité. Et ce garçon, nous allons le voir, donc Genèse 38, va avoir une vie un peu spéciale. Puisqu'en réalité, enfin pour être plus précis, Er a été marié. Il a eu une épouse, mais celle-ci n'a pas été enceinte avant sa mort. Donc elle s'est retrouvée veuve, sans enfant. Et il y avait un principe, ou plutôt c'était culturel, il y avait une loi même, plutôt mosaïque, qui disait que c'était la loi du Lévirat. Lorsque, par exemple, là, en l'occurrence, le frère là, était mort, la veuve devait, ou plutôt le beau-frère, devait se marier avec la veuve de son frère et à son tour procréer, avoir un enfant avec cette femme, donc sa belle-sœur, qui devient sa femme. Vous arrivez à me suivre ? Non. Ceci étant dit, il fallait que le garçon soit célibataire. Ce n'était pas question d'être marié plus avoir la belle-sœur. Mais du coup, de beau-frère et de belle-sœur, il devenait mari et femme. Pour le seul but, c'est que ce garçon, le Jean, le beau-frère, qui devenait donc l'époux, puisse donner la descendance à son frère. Et le garçon portait le nom de son frère. Vous avez compris ? Vous arrivez à me suivre, hein ? Dès le matin, comme ça, c'est bon ? Bon, ça va, ça va. Bon, c'est bien. Je m'en sors bien. Et le problème, c'est que, eh bien, je me perds dans mes notes. Je cherche le deuxième fils. Onan, voilà. Qui veut dire vigoureux, lassitude et iniquité. Donc, on fait la lecture au verset 8. Alors, du chapitre 38 de la Genèse. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, vous êtes assis ? Vous lisez en même temps que moi ? Qui le fit aussi mourir. Celui qui refusait, eh bien, de donner une postérité à son frère, eh bien, s'appelait le déchaussé. C'était comme ça. le déchausser. Devant des témoins, devant les anciens, on disait, voilà, lui, alors qu'il est en mesure de me donner un enfant portant le nom de mon défunt mari, se refuse. C'était quelque chose de méprisant, à la limite. D'autant plus que, la Bible ne nous le dit pas, mais ce garçon, Onan, eh bien, avait peut-être convoité les biens de son frère. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Donc, ne le prenez pas comme quelque chose de... Voilà. Le lévirat, donc, était quelque chose qui était pratiqué dans d'autres nations. Les Sumériens, les Assyriens, les Hittites, même chez les Bédouins arabes, eh bien, pratiquaient ce genre de choses. Hein. Donc, pour ça que tout le monde n'est pas... personne n'est étonné dans cette histoire, parce que ça se pratiquait. Plus chez nous. Hein. Vous le saviez. Bon. L'Éternel le fit mourir. La désobéissance nous conduira toujours à la mort. Le premier, nous l'avons vu, était un garçon qui portait le nom de Veillant, Veille, et pourtant il déplut, et le Dieu le fit mourir parce que c'est un garçon qui fit des choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Et une deuxième fois, eh bien, le deuxième fils, Onan, alors lui, il porte vraiment son nom, lassitude, iniquité. On voit que c'est un garçon qui est d'entrée, eh bien, on sent qu'il est déjà là. Et la parole nous dit en quelques mots que dès son plus jeune âge, l'enfant montre ce qu'il va le devenir, ce qu'il sera plus tard. Donc j'ouvre juste une parenthèse, dont l'éducation. Combien c'est important de pouvoir éduquer ses enfants. Les enfants, nos enfants, on peut les aimer de tout notre cœur, mais les enfants ne doivent jamais devenir des enfants rois. Quand il faut reprendre son petit, il faut le reprendre. Parfois même, ça peut nous attrister. Reprendre son enfant, ça ne veut pas dire qu'il faille le frapper. Même si la Bible en parle. Si on peut éviter, c'est aussi bien. Moi, je revendique pas le coup de taper les gosses. Voilà. Surtout si c'est pour se passer les nerfs, parce que la journée était mauvaise. Ce n'est pas des punching balls. Mais par le regard, en disant un mot, voilà, ou parfois même dire deux mots, hein, ou même taper du poing sur la table, ça peut arriver aussi de temps en temps, hein, dire maintenant ça suffit, et vous entendez les mouches. Parce que vous avez exigé quelque chose. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. L'autre jour, il y avait un garçon qui disait, qui rendait témoignage, mais ce n'était pas un chrétien, il rendait témoignage, il disait, il en voulait terriblement à sa mère. Et il disait, quand tu m'as vu, en quelques mots c'est comme ça que c'était dit, quand tu m'as vu avec ma cigarette, tu étais la première à m'acheter mon paquet de cigarettes à 13 ans. Et la mère, elle était toute étonnée de voir que son fils lui en voulait, enfin, parce qu'il a dit bien d'autres choses. Voilà, c'est important d'éduquer ses enfants, mais ça vous le savez. Je ferme la parenthèse. Et puis, Judas va avoir un troisième enfant. C'est l'enfant... de l'engagement non respecté. Vous vous rappelez du lévirat? Le mari est mort, le gendre devait se marier avec sa belle-sœur, celui-ci étant mort, Judas a eu un troisième fils. Ce troisième fils s'appelle Shéla. Rien à voir avec la chanteuse, vous avez compris. Shéla. Et Shéla signifie prière. Tiens donc, est-ce que Judas aurait compris certaines choses? Que veiller ou veillant, par rapport à son premier fils, ne suffit pas. Parce que si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas la prière, du coup, dans notre vie, peut y rentrer la lassitude et l'iniquité. Combien il est important d'être dans la prière aussi. Parler à Dieu. Prier, ce n'est pas simplement blablabla, parler. Prier, c'est un temps, c'est un état d'esprit, c'est prendre du temps aussi pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Ce n'est pas une perte de temps. Si vous êtes une demi-heure derrière votre bureau en ayant dit trois mots et que Dieu vous parle, c'est un gagne-temps et c'est tellement bénéfique. C'est une grâce, une bénédiction. Donc, Shéla devait, normalement, selon la loi du Lévirat, du coup, lui, se marier avec Tamar. Mais Judas... Certainement qu'il a une appréhension, une peur. Il a perdu deux fils quand même. Et le troisième, il a bon prié, mais ce petit, comment va-t-il se tenir, se comporter? Il est écrit au chapitre 38, verset 11, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Donc il s'engage auprès de sa belle-fille, en disant, voilà, ça va venir, mais quelque part, si elle peut vous trouver quelqu'un d'autre, ça va venir, mais il avait peur, ça peut se comprendre. Et voilà que Shéla, c'est un garçon qui va grandir, il va devenir un homme. Mais Tamar, elle ne voit pas Shéla arriver à sa porte. Et là, ça se complique quand on fait une première lecture. Parce qu'à un moment donné, il nous est dit que Tamar va s'habiller en prostituée. On va voir après. J'aimerais juste prendre ce que j'avais noté là. Judas va avoir l'infernale chute de sa vie. Il est écrit au verset 12, « Bien longtemps après cela, la fille de Choua, femme de Judas, mourut, donc la femme de Judas va mourir. Et quand les jours de deuil furent passés pour Judas, il monta à Timna pour la tonte de ses moutons. » Et là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Pour la tonte de ses moutons, ça peut sembler tellement anodin. Sauf que il faisait la fête. Et il y avait des prostituées, ce qu'on appelait des prostituées sacrées. Et c'était voulu, c'était acté dans la culture. Les hommes allaient voir les femmes prostituées sacrées. Comme elles étaient sacrées, c'était permis. C'était toléré, elles étaient sacrées, donc voilà. Vous voyez bien que je suis de l'humour, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bon, voilà. Et donc ils avaient des relations préconjugales ou extra-conjugales, comme faisant partie de la magie de la fertilité. C'était la culture. Alors vous savez que dans ces cas-là, on se trouve un tas d'excuses. Oh, c'est la magie de la fertilité. Quand c'est pour faire le mal, on a toujours un tas d'excuses. Voilà. Job dit dans son chapitre 36, verset 21, écoutez bien, parce que ça aussi, ça nous concerne. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Avez-vous remarqué que quand vous n'étiez pas bien dans votre vie, lorsque vous étiez peut-être dans un état de souffrance, morale, physique, spirituelle, vous étiez moins vigilant et peut-être plus disposé à être tenté. Ça ne vous est pas arrivé? Tamar, donc, va se déguiser eh bien, en prostituée. Pourtant, ça ne correspond pas avec le nom de Tamar. Tamar signifie droit, palmier. Il n'y a pas plus droit qu'un palmier. Hein? Droit et palmier. Et un palmier, c'est droit, et en plus, c'est gracieux, c'est élégant. Mais les mots sont importants, puisqu'il nous est dit, ainsi déguisée, elle s'était déguisée en prostituée. Au verset 18, il est écrit « Elle donna une condition, le cachet, le cordon, le bâton. » On pourrait faire la lecture si vous voulez, ce sera plus simple. « Alors, elle ôta ses vêtements, verset 12. « Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. » Méfiez-vous des amis. Est-ce que ce sont vraiment des amis? Parce que conduire son ami voir des prostituées, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment un ami. Enfin, bon, peu importe. On informa Tamar et on lui dit, donc Tamar, la belle-fille, « Voici ton beau-frère, ton beau-père, qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna. » Car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle lui dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, écoutez bien, c'est important, « Ton cachet, ton cordon et ton bâton, et le bâton que tu as dans ta main. » Elle lui donna. Il lui donna. Il lui en... Qu'est-ce qui est écrit ? Voilà, il lui donna. Elle s'est déguisée en prostituée. Elle va lui donner une condition, pas n'importe quelle condition. Lui, il dit, je vais te payer, je vais t'envoyer un chevreau. Mais, enfin, c'est pas le tout d'avoir une parole. Qu'est-ce qu'il va me prouver ? Tu vas vraiment la porter. Alors, comme nous savons que c'est Tamar et qu'elle n'a pas du tout dans l'état d'esprit de vouloir jouer le rôle de la prostituée, enfin, joue un rôle, mais dans son cœur, c'est pas une prostituée, elle va demander le cachet, le cordon, le bâton. Elle ôta son voile au verset 19 et se remit et remit ses habits de veuve. Elle ne fut jamais payée. Quoi qu'il arrive, moi j'ai envoyé ce chevreau et toi tu n'as pas trouvé cette femme. Jacob a honoré eh bien, son engagement. Il a envoyé son chevreau par son serviteur. Mais il ne l'a jamais trouvé. Pour cause. Pourquoi il ne l'a jamais trouvé ? Parce que ce n'était pas une prostituée. Alors, pourquoi eh bien, Tamar agit comme ça ? Sans doute que dans la tradition du Lévirat, lorsqu'il n'y avait pas de fils, ou il n'y avait plus de fils, le beau-père devenait lui-même eh bien, le mari de celle-ci. Pour justement donner un nom. Parce que si le nom n'était plus communiqué, c'était terminé de la tribu. Et Tamar va demander le cachet, cordon, bâton. Judas n'avait plus la volonté ni la force de continuer. Il laisse tomber l'éponge. Est-ce que quelqu'un serait comme ça ce matin ? Prêt à donner ce que vous avez de précieux. Le cachet était important, c'était une signature. Lorsqu'on faisait, par exemple, des courriers, un courrier officiel était plié, et puis on y mettait de la cire, et avec le cachet, on y mettait son empreinte. Vous avez déjà vu les chevalières. Souvent, sur les chevalières, il y a les initiales bien du propriétaire. Hein. Voilà. Donc, il mettait son cachet, et c'était important. C'était son nom, c'était sa personne, c'était l'authenticité de sa personne, c'est moi qui ai marqué. Et puis il y avait le cordon, être attaché, le cordon tenait eh bien, un petit cylindre par exemple, l'identité de Judas, des 12 tribus, de la promesse de Dieu pour Israël. Et le bâton était l'emblème du chef de tribu. Et par extension, la tribu elle-même, le témoignage pour lui-même et sa famille. Et voilà qu'il va tout donner pour avoir connu une femme. De cette union, il va y avoir deux jumeaux, Pérès et Zérah. Pérès signifie brèche. On sait qu'il nous faut veiller. Mais que malgré tout, il nous faut veiller sur notre vieille nature parce qu'il peut s'installer dans notre cœur la lassitude et l'iniquité. Il nous faut prier pour éviter de tomber dans la brèche du péché. Mais la brèche aussi nous parle aussi de choses négatives, la brèche du péché. Mais en même temps, ça nous parle d'une manière positive. Eh bien, pour briser un cœur endurci. Vous savez que ça paraît tellement simple. Des blocs, bon, je ne vais rien vous apprendre, mais les blocs dans les carrières. Ici, on est sur une carrière, vous vous rappelez ? C'est une ancienne carrière. Vous savez comment on brisait ? Eh bien, les blocs de pierre qui font plusieurs tonnes. On fait un trou dans la pierre, on y met un morceau de bois, enfin plusieurs, il n'y a pas qu'un, bien sûr, sur toute une longueur, et puis on y met de l'eau. Et le bois, sous l'action de l'eau, va gonfler. Et petit à petit, on enfonce le bois, et petit à petit, pam ! Enfin, ça ne fait pas se brûler, ça se casse tout doucement. Eh bien, moi, ça me parle, ça. Le bois, ça me parle de la croix. Et l'eau de la parole. Eh bien, Dieu a le pouvoir, eh bien, de briser, de faire une brèche dans les cœurs les plus endurcis. Est-ce que vous ne croyez pas que Judas était endurci? Quand même. Quand il pensait à sa vie, quand il pensait aux promesses de Dieu, quand il savait qu'il faisait partie, même s'il ne prenait pas pleinement conscience, qu'il faisait partie qu'il allait faire partie des 12 tribus de Judas, de 12 tribus d'Israël, lui, il ne savait pas. On va le voir juste après, mais rapidement. Mais c'est tellement important, Judas. Et Dieu est intervenu, et lui, il était là, au point de... Quand il a vu ses deux enfants mourir, et la signification de ses enfants, et de voir qu'il ne pouvait même plus s'engager plus loin, tellement qu'il avait peur. Parce qu'en fin de compte, son engagement avec Tamar, il n'a pas pu le maintenir. Parce qu'il avait peur que Shéla, son fils, ne meure aussi. Un est mort, le deuxième est mort. Et pourquoi pas le troisième, après tout? Lui, il ne savait pas ce qui se passait dans le cœur de son fils. Il pouvait porter un beau nom, une prière, mais enfin, mais certainement que Jacob, lui, il a prié pour son fils. Mais la prière ne suffit pas, mes amis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Encore hier, je parlais avec quelqu'un. En gros, je disais, tu sais, quelques mots, je lui disais, c'est pas simplement de prier. Prier, c'est une chose, mais il faut accepter aussi que Dieu... Il y a des gens, ils se donnent bonne conscience. J'ai prié, frère! Mais oui, mais ils ne sont pas vrais, au fond d'eux-mêmes. Ils ont prié, mais ils ont déjà pris en amont position. J'ai prié pour dire, si on me demande, c'est vrai, mais dans mon cœur, je suis déjà décidé, même si Dieu me dit non. Donc c'est faux. C'est hypocrite. Et Judas avait ses craintes dans son cœur. Et Judas, eh bien, quand il va voir que cette femme, cette prostituée, va lui faire dire qu'elle est enceinte. Et comment va-t-il reconnaître que c'est lui le père de ses deux enfants? Eh bien, tout simplement parce que le garçon va apporter, on va venir dire à Judas, dis donc, Judas, tu sais pas, j'ai appris une chose, dis donc. Qu'as-tu appris? Ben, ta fille, ta belle-fille, c'est une prostituée. C'est pas vrai. Elle mérite de mourir. C'était une honte. La belle-fille, devenir prostituée. Alors elle n'avait pas perdu le fil, c'est qu'elle doit le dire. Elle a donné les objets, elle dit, reconnais ces objets, à qui appartiennent-ils? Oh, quand il a vu que c'était le cachet, le cordon, le bâton, il dit, elle est plus juste que moi. Vous voyez mes frères et sœurs, combien il est important d'accepter de lire la parole et d'accepter que Dieu vienne faire une brèche dans notre cœur. Peut-être que ce matin, quelqu'un a un cœur endurci, quelle que soit la raison, quelle que soit la... Vous avez peut-être vécu des choses difficiles, douloureuses dans votre vie. Acceptez que Dieu vienne faire une brèche dans votre cœur. Moi, il m'est arrivé quelquefois de dire, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Circoncis mon cœur. Pas à moi qui vais le circoncire, je ne peux pas le circoncire mon cœur. Mais Seigneur, circoncis mon cœur. Il faut être prêt à l'accepter aussi. Vous savez aussi bien que moi que Dieu nous conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, Seigneur, ta grâce. Je termine. Judas qui a accepté que Dieu vienne panser son cœur va à travers ses deux jumeaux, Zérah et Pérès. Zérah veut dire lever du soleil et Dieu veut faire lever en nous la lumière de Christ dans notre vie. Un nouveau jour, un nouveau départ. Eh bien, la conclusion de tout ça, c'est que la tribu de Judas fut la plus grande de toutes les tribus d'Israël. Gloire à Dieu! Dieu répare, Dieu restaure. Et lors des ordres donnés au sujet des campements des tribus d'Israël, autour de la tente d'assignation dans le désert, c'est la tribu de Judas qui a été citée la première. Nombre 2, chapitre 2, verset 3. Quand le fils d'Israël partit au désert du Sinaï, ce fut la bannière du camp de Judas qui partit encore la première. Nombre 10, verset 14. David, issu de Judas, tiens donc. Vous connaissez la suite, vous ne pouvez pas faire autrement. Daniel, issu de la tribu de Juda. Zorobabel, prince et gouverneur de Juda, Jérusalem, sur le territoire de... Là, vous vous endormez, hein, il est temps que je termine. Jérusalem, sur le territoire de... Juda. Eh oui. Sans parler du lion de... Juda. Qui est donc... Jésus vient de la tribu de Juda. C'est la fin, mais pour vous dire, ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un de la tribu de Juda ce matin, ou plutôt qui se reconnaît comme étant Juda, pas Juda Iscariote, on a bien compris. En disant, mon cœur, elle est dure, je fuis ma misère. Arrêtez de fuir. Il dit au Seigneur, Seigneur, que Pérès puisse être dans mon cœur. Le symbole, viens faire une brèche dans mon cœur qui s'est endurci. Parce que Dieu, vous savez, Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors on va terminer la prière. On va terminer par la prière. Vous voulez bien ?